Il est aujourd'hui bien compris qu'il est essentiel de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique. Nous nous y sommes engagés. La bataille n'est pas finie, loin de là. Mais nous en connaissons les objectifs, la juste mesure, les engagements, les financements, et nous avançons. Mais il est tout aussi important d'accélérer la mise en œuvre d'actions d'adaptation sur le terrain afin de réduire la vulnérabilité de nos sociétés. La France s'y emploie sur son territoire depuis 2006 à travers un plan national d'adaptation au changement climatique qui est renouvelé tous les 6 ans. Fondé sur une large concertation d'acteurs, son objectif est d'accélérer et d'étendre à tous les secteurs l'adaptation au changement climatique en cohérence avec les objectifs de long terme de l'accord de Paris. Les collectivités locales y jouent un rôle de premier plan en mettant en œuvre des plans à l'échelle des territoires. Les solutions fondées sur la nature, adaptées à chaque contexte local, y sont prioritaires. Et des mesures spécifiques sont également venues compléter ce dispositif pour nos territoires d'outre-mer et ont été partagées avec ceux qui en ont besoin. There is no planet B.
There is no planet blah. Blah, 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 blah.
Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre.
Hey, Copenhague.
Climat de lutte, c'est l'émission de l'écologie en lutte tous les jeudis soirs sur la clé des ondes 90.10 de 19h à 20h et en rediffusion le vendredi de 13h à 14h. Bonsoir et bienvenue dans Climat de lutte pour une émission dont le thème, vous l'avez compris, est l'adaptation au changement climatique. C'est une notion qui, dans la bouche d'Emmanuel Macron, comme il le dit tout à l'heure, il était en 2021 au moment du sommet pour l'adaptation au changement climatique, prend tout de suite l'apparence d'un verbiage fumeux dans lequel les mots n'ont plus aucun sens car ils s'entrechoquent avec une réalité complètement contradictoire. Eh bien, cette notion est pourtant d'une importance décisive. Au point que la très sérieuse ONG Oxfam lui a consacré un énorme rapport cet été, un rapport malheureusement passé presque inaperçu entre les Jeux Olympiques, la dissolution et les tergiversations du même Emmanuel Macron pour accepter le verdict des urnes. Avec nous pour en parler ce soir, Emiliane Gouadmi, responsable d'Oxfam Bordeaux. Coordinatrice d'Oxfam Bordeaux. Bonsoir, Emilia.
Bonsoir.
Alors, Emilia, si tu devais nous définir l'adaptation au changement climatique en quelques mots, ce serait quoi ?
Alors, pour faire simple, il faut distinguer l'adaptation et l'atténuation au changement climatique. L'atténuation, c'est agir sur les causes et donc essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre, alors que l'adaptation, c'est agir sur les conséquences des effets du changement climatique. Donc là, typiquement, ça va être de trouver des moyens comme déplacer les maisons à cause de l'érosion côtière, par exemple. Alors que l'atténuation, ça va être de lutter contre tout ce qui génère des émissions de gaz à effet de serre. Donc vraiment, atténuation, cause, et adaptation, conséquence.
Alors, il faut aussi expliquer cette idée, un autre doublé, c'est le concept de vulnérabilité contre celui des aléas. C'est-à-dire que pour des mêmes aléas, une tempête, des précipitations très violentes, etc., eh bien, nous ne sommes pas tous de la même vulnérabilité.
Oui, en effet, en fait, la vulnérabilité, ça correspond à la sensibilité de ces éléments, comment on est exposé, plus ou moins exposé, et ce que prouve Oxfam, c'est que l'adaptation au changement climatique et la vulnérabilité, elles dépendent de notre classe sociale. En fait, tout simplement, plus on est riche, plus on a tendance à polluer et plus on est protégé face aux effets des changements climatiques. Alors que le GIEC, et ainsi que ce qu'on a publié dans notre rapport, on montre que les personnes les plus pauvres, les plus précaires, particulièrement aussi les personnes handicapées, les femmes et les enfants, subissent davantage les effets du changement climatique et le sont les moins protégés. Je prends par exemple les zones dans lesquelles sont les personnes du voyage, ce qu'on appelle les gens du voyage, sont des zones qui sont exposées à de très forts risques et typiquement, ça fait partie des groupes qu'on dit minoritaires qui subissent davantage les effets et sont les moins protégés.
Et oui, parce que ces effets du changement climatique touchent la France déjà de plein fouet. L'été 2023 a été le plus chaud jamais mesuré sur Terre et le quatrième plus chaud mesuré en France. L'année 2022 a vu se cumuler tous les aléas climatiques, sécheresse historique généralisée, méga-feux en Gironde, dans les Landes, orages violents. Et pourtant, la France tarde à mettre en place à la fois une stratégie d'atténuation et d'adaptation. Et c'est pas moi qui l'affirme, c'est le Haut Conseil pour le climat dans une lettre qu'il a adressée au gouvernement le 4 avril 2024, c'est-à-dire il y a quelques mois à peine. Et ces politiques d'adaptation, pourtant, elles pourraient éviter, de limiter en tous les cas les impacts sur les populations. Et la lettre du Haut Conseil cite quelques chiffres. 1,3 million d'enfants de maternelle seront exposés à une chaleur dépassant 35 degrés dans les classes d'ici 2030. Et 55% des écoles maternelles en France sont concernées. 36% des travailleurs et travailleuses sont déjà exposés à des chaleurs extrêmes sur leur travail. Et d'ici 2100, 5% des hôpitaux français seront menacés de fermeture à cause des aléas climatiques extrêmes.
Oui, tout à fait. C'est une urgence parce que aujourd'hui, je le disais, les populations les plus pauvres, elles ont 3 fois plus de risques de mourir d'un épisode de pollution que les personnes les plus riches. En fait, ce qu'on a montré à Oxfam à plusieurs reprises, c'est que les changements climatiques et les inégalités, ils s'alimentent réciproquement et forment en fait un cercle vicieux. Ce sont les plus riches donc qui polluent le plus et qui aggravent le plus la crise climatique, mais ce sont bien les personnes les plus pauvres qui subissent ces effets. Quelle est la politique de l'État? En fait, pour comprendre, l'État, il a ce qu'on appelle un plan national d'adaptation au changement climatique.
Un PNAC,
qui définit ses orientations, ses mesures pour s'adapter au changement climatique. Mais le problème de ce PNAC, c'est qu'il n'est pas contraignant. Et comme l'a très bien dit le Haut Conseil pour le climat, c'est que les mesures aujourd'hui qui sont prises, elles ne sont pas assez à la hauteur des effets du changement climatique. Et surtout, elles ne tiennent pas assez compte de l'enjeu fondamental qui est la justice sociale. Nous, au CERM, on dit souvent fin du monde et fin du mois, c'est le même combat.
Et oui, et donc tu l'as bien dit, c'est-à-dire que ces inégalités, elles affaiblissent des tas de gens pour pouvoir affronter les impacts de ce changement climatique. Et réciproquement, le changement climatique renforce les inégalités. Alors que les inégalités dans la cause du changement climatique sont évidentes, puisque par exemple, les 63 milliardaires français émettent autant que la moitié de la population française. Donc c'est absolument énorme. Mmh. Et c'est là qu'il y aurait besoin d'une vision globale de l'adaptation et d'une analyse donc, des politiques publiques qu'il faudrait envisager. Et au contraire, on a l'impression qu'il y a un manque d'engagement politique et même que la criminalisation des mouvements de la société civile sur ces questions d'adaptation a déjà commencé à affecter nos droits fondamentaux.
Oui, tout à fait. C'est aussi ce qu'on explique dans ce rapport. Aujourd'hui, les effets des changements climatiques vont vraiment réduire les droits fondamentaux. Par exemple, dans le droit du travail, on n'a pas un droit du travail qui est suffisamment adapté aux effets des changements climatiques. Des secteurs vont être très fortement touchés, comme le secteur agricole, particulièrement les baisses de production, les conditions, tout simplement. On est au mois de septembre, on est une région qui produit beaucoup de vin. Donc, pour les périodes pour prendre le vin de... Ah, j'ai perdu le mot.
Pour rendre le vin liquoreux dans le sud de Gironde, c'est ça
Quand ils collectent le vin.
Pour que les raisins soient vendangeables.
Voilà, ça les vendanges, voilà, merci.
Les vendanges.
Donc, par exemple, typiquement, les conditions des vendanges vont être de plus en plus compliquées. Donc, en fait, vraiment, l'un des enjeux qu'on essaye de mettre en avant, c'est qu'il faut articuler les politiques climatiques avec l'ensemble des droits fondamentaux, avec la protection des personnes les plus vulnérables, parce que sinon, nos droits fondamentaux seront menacés. Et surtout, ce sur quoi on l'accent, c'est aussi la démocratie, la transparence. Nous, ce qu'on propose à Oxfam, c'est qu'il y ait des conventions citoyennes dans les territoires pour réfléchir ensemble aux politiques d'adaptation au changement climatique pour qu'elles soient le plus justes. Je prends par exemple la question du logement. On sait que le logement, c'est quelque chose qui touche à tout le monde. Aujourd'hui, les mesures que propose l'État à travers MaPrimeRénov', par exemple, pour pouvoir faire des travaux d'énergie là, pour lutter contre les passoires énergétiques. Il faut avoir des moyens, en fait. Ce sont des mesures où l'État vient apporter certains fonds, mais vous avez quand même des milliers d'euros qui restent à votre charge. Qu'est-ce qui se passe pour le petit propriétaire qui a travaillé très dur toute sa vie pour s'acheter une petite maison et qui n'a pas les moyens? En fait, il ne peut pas forcément avancer les frais. Donc, comment il fait? Il reste vivre dans des passoires énergétiques? Ce n'est pas possible, en fait. Donc, nous, ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est qu'il faut... mettre beaucoup plus de milliards, et surtout on défend une taxe avec un ISF climat. C'est notre pétition que je vous invite à signer sur notre site.
On mettra le lien.
Voilà, et c'est extrêmement important puisque pour financer la transition écologique, il faut aller prendre cet argent au bon endroit. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce sont les personnes les plus riches, particulièrement les milliardaires, qui sont responsables des effets du changement climatique en termes de poids. On a tous un rôle, mais en fait leur empreinte carbone, elle est extrêmement importante. Donc c'est important de mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur, tout simplement. On ne peut pas demander à chaque personne de faire un effort pendant que d'autres prennent leur jet privé, comme on peut prendre son vélo, en fait.
Oui, ou bien leur super yacht, comme on les voit dans le port de Bordeaux. Et donc, pour revenir un peu sur cette question des droits, notre Constitution écrit l'égalité des droits entre chaque citoyen. Et par exemple, le rapport mentionne le fait que les femmes et les filles meurent en plus grand nombre lorsqu'il y a des catastrophes naturelles et industrielles, ou lorsqu'il y a des épidémies, parce qu'elles sont pauvres, souvent plus pauvres et moins protégées. Mmh. Même chose par rapport à l'âge en France, en 2023, 5000 décès à cause des pics de chaleur, et les trois quarts, c'était les personnes âgées qui étaient victimes de ces pics de chaleur. Donc, dans le rapport, il y a un décompte qui est fait, il y a 26 des 50 droits fondamentaux de l'Union européenne qui sont directement menacés en France du fait de la négligence de l'État en matière d'adaptation au changement climatique.
Oui, puis c'est un enjeu de politique d'inclusion. Je prends un exemple. Pendant cet été, puis le début du mois de septembre, on était de nombreux à saluer les performances des para-athlètes. Tout le monde trouvait ça fantastique. Mais l'enjeu, c'est avant tout l'égalité des droits au quotidien. Dans le rapport, on publie aussi que les personnes qui sont en situation de handicap ont 4 fois plus de risques de mourir en cas de catastrophe. Leur vulnérabilité, elle est beaucoup plus augmentée du fait des changements climatiques. Donc on ne peut pas se contenter de saluer une fois de temps en temps, tous les 4 ans, quand il y a des JOP, des personnes qui sont en situation de handicap. En fait, c'est au quotidien qu'on doit essayer de faire en sorte qu'il y ait l'égalité, l'inclusion.
Et oui, et on voit que donc, cette situation de non-inclusion aboutit à parfois à des conflits sociaux qui peuvent tourner dramatiques. On écoute un témoignage montrant que cette aggravation des inégalités, ce recul des droits, a lieu sous toutes les latitudes et donc peut déboucher sur des situations très violentes. C'est un témoignage recueilli à Mel, dans les Deux-Sèvres, cet été, au mois de juillet.
Je suis Carlos Beas, je viens du Mexique. Je fais partie du mouvement indigène. Et nous sommes dans cette rencontre internationale en Poitou pour accompagner la lutte de nos frères et sœurs de France. Et aussi, on découvre leur réalité, qui à plusieurs égards est très semblable à la nôtre. Au Mexique et dans d'autres pays du monde, nous vivons l'impact grave du changement climatique et des conséquences comme la pénurie d'eau. Mais cette pénurie n'est pas seulement provoquée par le changement climatique, mais aussi par la mauvaise gestion concentrée par les grandes entreprises qui font des grandes cultures et ont transformé une ressource vitale en marchandise. Ces jours-ci, on a subi aussi, pas seulement les Français et les visiteurs d'Europe, mais aussi d'autres pays, nous avons subi le harcèlement des corps policiers de France. Nous nous demandons où est l'État démocratique, où est la liberté, la solidarité, la fraternité, qui sont les valeurs fondamentales de ce pays. Nous sommes en train de vivre en France un État, nous pensons que nous vivons un État d'exception, un État où sont violés les droits fondamentaux des personnes pour se réunir, à dialoguer et à se mobiliser. En ce sens, nous condamnons la répression qu'ont souffert nos camarades de France qui sont en train de manifester leur droit à exiger une meilleure vie et un meilleur avenir. Nous voulons dénoncer en ce moment que dans beaucoup d'endroits du monde et aussi au Mexique, on réprime fortement les défenseurs des territoires, on réprime les défenseurs de l'eau. Au Mexique, récemment, ont été assassinés deux paysans parce qu'ils sont protestés contre une entreprise canadienne de production porcine qui s'appelle Granjas Carrol. Ont été assassinés deux camarades et persécutés par la police. Nous nous demandons, un État qui se fait appeler démocratique peut porter atteinte contre ses citoyens parce qu'ils demandent une meilleure vie? Cela n'est pas de la démocratie. Ce sont des États policiers au service des grandes transnationales. Nous sommes ici aujourd'hui pour unir nos voix et notre force à nos frères et sœurs de France pour dire basta. L'eau est un droit du peuple. Ce n'est pas l'affaire des grandes entreprises. Il y a 18 ans, à Oaxaca, au Mexique, d'où je viens, nous avons eu une lutte très importante contre les abus du pouvoir. À cette époque-là, le peuple de Oaxaca a construit des barricades et nous disions que dans ces barricades se trouvait l'esprit de Luis Michel. Je veux dire ceci parce que depuis très longtemps, la lutte du Mexique et du peuple de France marchent ensemble. En ce sens, ici et maintenant, on dit « no basaran ».
Voilà, il y avait une grosse délégation étrangère cet été à Mel et c'est passé un peu sous silence parce que les journalistes n'ont pas répondu à l'appel des organisateurs pour venir rencontrer tous ces gens qui sont venus des quatre coins de la planète pour témoigner dans les luttes pour l'accès à l'eau pour tous, qui est donc un des grands problèmes qui nous attend. Eh bien, non seulement tu parlais tout à l'heure d'écouter les citoyens et de leur donner la parole, mais là, il n'était pas question de les écouter, mais de les réprimer. Et ces délégations étrangères ont vécu la répression qu'il y a eu à Mel, c'est-à-dire eux-mêmes, ils étaient arrêtés avant de pouvoir arriver sur place dans le village de l'eau. Ils ont vu la répression sur les manifestations, par exemple celle de La Rochelle, et ça les a beaucoup marqués. Alors, à Mel, il était question des bassines agricoles, ce qu'on appelle les réserves de substitution, dont on a parlé souvent sur nos ondes. On appelle ça une maladaptation. Est-ce que une maladaptation justement au changement climatique? Est-ce que tu pourrais préciser ce que c'est que ces maladaptations?
Oui, juste avant de parler des maladaptations, j'aimerais rappeler aussi que nous sommes une association de solidarité internationale et c'est vrai que c'est un des enjeux parfois qu'on peut oublier, la responsabilité historique des pays du Nord vis-à-vis des pays du Sud. Et pour nous, c'est essentiel de rappeler que la France, comme d'autres pays riches, est historiquement responsable des changements climatiques et on demande à ce que la France respecte les promesses que les pays du Nord font systématiquement de fournir au moins 100 milliards de dollars par an aux pays du Sud et d'augmenter l'aide publique au développement. Il ne faut pas l'oublier, à Bordeaux, c'était mobilisé contre la famine qu'il y a dans la Corne de l'Afrique, qui est une des pires famines depuis 1945 et qui est vraiment liée aux effets du changement climatique. Donc je pense que c'est important de le rappeler aussi, tous ces enjeux que vous pouvez entendre parler souvent lors des COP, c'est les fonds des pertes et préjudices. C'est essentiel parce que la justice, c'est pas uniquement dans notre pays, mais c'est aussi vis-à-vis des pays qu'on dit du Sud global. Donc pour en revenir aux politiques de maladaptation, les politiques de maladaptation, il n'y a pas vraiment une définition stricte au niveau national, mais on peut les définir comme des politiques et des actions qui vont contribuer en fait in fine à renforcer les effets du changement climatique. La plus connue, évidemment, c'est la climatisation. Qu'est-ce qu'on fait quand on achète un climatiseur, par exemple? On produit de l'air frais à l'intérieur, mais en fait, ce climatiseur, il va rejeter de l'air chaud à l'extérieur. Et c'est le cas très souvent dans les grandes villes. Il y a beaucoup de magasins à chaque fois qui font ça. Et ça, quelle est la conséquence? C'est d'augmenter l'effet de ce qu'on appelle des îlots de chaleur urbains. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une politique de maladaptation, puisque, in fine, la conséquence, elle ne va pas être réellement d'atténuer les effets des changements climatiques, mais de les renforcer. Donc en fait, si on veut baisser la température, par exemple dans une ville, c'est plutôt de planter des arbres, en fait, de revégétaliser.
Oui, alors on va y revenir parce qu'il existe aussi, c'est dénoncé dans le rapport, une gentrification verte qui pose quelques problèmes. Mmh. Mais pour revenir sur les bassines, elles sont exactement donc, dans la situation que tu viens de décrire, puisque le prétexte de la construction des bassines, c'est de prélever de l'eau en hiver pour remplir des bassines et mettre l'eau à disposition en été. Mais ce qui débouche sur une surconsommation d'eau par rapport à la période d'avant, et par rapport au fait qu'on approprie, on privatise l'eau qui était au départ dans les nappes phréatiques en la mettant dans ces bassines. Et qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est rendre les bassins versants plus résilients en mettant des arbres, en plantant des haies pour que l'eau pénètre le sol et pour qu'il y ait davantage d'eau dans les sols plutôt que de faire ces bassines dont tous les chercheurs savent et le prédisent que ça va à une catastrophe, ça va aboutir à une catastrophe, sauf pour peut-être une poignée de gros agriculteurs qui pourront se payer les bassines pendant un certain temps.
Mais c'est vrai que ça soulève une question fondamentale, c'est l'adaptation de l'agriculture en fait, aux effets des changements climatiques. On a une région qui a beaucoup souffert de l'eau. En 2022, c'était l'année la plus chaude enregistrée dans notre région. C'était une année où il y avait même des interdictions de remplir des piscines. Et aujourd'hui, notre agriculture, il est essentiel de la repenser, en fait, de défendre des mesures agroécologiques pour permettre de pouvoir produire dans des conditions décentes et surtout pour réfléchir aussi à fournir aux agricultrices et aux agriculteurs des revenus qui sont résilients, en fait. Ça, c'est un enjeu essentiel dont on ne parle pas assez parce que les effets du changement climatique, quand on ne prend pas les mesures adéquates, ça augmente les risques de vulnérabilité. Par exemple, la floraison très tôt et des gels tardifs, ça détruit des arbres à fruits, comme l'a très bien expliqué le réseau Action Climat dans le rapport qui a été publié aujourd'hui sur la France et l'adaptation au changement climatique dans les régions françaises.
Oui, parce que donc, dans le cadre de la préparation de cette émission ce soir, eh bien, est paru ce matin un rapport du réseau Action Climat et qui est très intéressant et qui corrobore beaucoup de choses qui étaient dites dans le rapport d'Oxfam cet été. Oui. Alors, je vais faire une petite excursion dans le monde de la politique parce que donc, les chercheurs travaillent sur toutes ces questions, les chercheurs dans les sciences du climat, les chercheurs les sociologues aussi, tous ces chercheurs se sont beaucoup émus au mois de juillet, et à juste titre, du danger d'une majorité Rassemblement National à l'Assemblée. Et au moment des législatives, les scientifiques de Scientifiques en Rébellion ont écrit une tribune signé par la suite par 2500 scientifiques. Et dans cette tribune, ils disent une constante des extrêmes droites, c'est leur déni des alertes scientifiques concernant l'urgence climatique et écologique. Le Rassemblement national se défend d'être climato-sceptique, mais il relativise les rapports du GIEC. Il s'oppose au déploiement des énergies renouvelables, alors que tout misé sur le nucléaire ne permettrait même pas de respecter l'accord de Paris à l'échelle française. En s'opposant à l'électrification des transports, en voulant baisser les taxes sur les énergies fossiles, en s'opposant à toutes les mesures de décarbonation, aux mesures de sauvegarde de la biodiversité, à la diminution des pesticides, au zéro artificialisation nette, mais en étant favorable au développement routier, c'est un monde bétonné, goudronné, pollué, en surchauffe et sans vie que nous promet le RN. Pourtant, selon ce parti, toute mesure écologique est punitive. Et de quel côté sera la punition, interroge donc la tribune des scientifiques en rébellion, lorsqu'on sera dans un monde à plus 3 ou plus 4 degrés. Et c'est vraiment ce rapport à la science qu'il faut aussi changer pour faire entendre ces arguments que développe le rapport que tu viens d'évoquer.
Oui, vos propos me font penser au livre « La tentation écofasciste » de Pierre Madelin, qui réfléchit justement aux questions d'écologie et d'extrême droite, parce que l'extrême droite s'adapte, si vous me permettez ce jeu de mots, également au contexte. Il y a une doctrine, le localisme, où ils essaient de reprendre un peu des éléments d'extrême droite ou de jouer sur la peur des migrants climatiques en disant qu'il y aura beaucoup de migrants ou qu'on ne peut pas protéger tout le monde. Évidemment, l'extrême droite n'est pas compatible avec l'écologie, puisque notre combat à nous et plus largement l'écologie politique vise à défendre l'ensemble des êtres humains, l'ensemble des êtres humains en droit à la dignité. Donc oui, en effet, l'extrême droite, c'est un danger pour les êtres humains, pour le climat, pour la biodiversité.
Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti!
Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Climat de lutte sur la clé des ondes. Et ce soir, nous recevons Emilia Adgoadmi pour parler donc de ce rapport d'Oxfam. Alors, Emilia, si moi je te tutoie, il faut que tu me tutoies aussi. Parce que j'ai passé au vouvoiement. Et dans ce rapport, il est question, je le disais tout à l'heure, de gentrification verte. Et le GIEC, d'ailleurs, met en garde souvent contre cette dérive. C'est aussi une forme de maladaptation qui privilégie les populations urbaines aisées dans des projets de verdissement urbain. Et en retour, donc, la végétalisation des villes a un effet positif sur les valeurs des biens immobiliers et entraîne donc une augmentation des loyers du foncier et un déplacement des populations les plus précaires vers les périphéries non végétalisées. Donc c'est un phénomène qu'a constaté le GIEC et que constate aussi le rapport d'Oxfam.
Oui, c'est un effet pervers, c'est pour ça que je disais, c'est aborder les politiques d'adaptation au changement climatique, c'est essentiel de le faire sous le sens de la justice, puisque aujourd'hui, les premières personnes qui souffrent des effets du changement climatique, on les trouve dans des quartiers populaires, où les logements ne sont pas adaptés, où il fait extrêmement chaud, on les trouve progressivement dans les écoles. Vous avez cité le cas des écoles qui ne sont pas aujourd'hui suffisamment rénovées. Et malheureusement, c'est ce qu'on disait dès le début, c'est que plus vous êtes aisé et plus vous avez la capacité de vous adapter et plus vous bénéficiez aujourd'hui des politiques d'adaptation au changement climatique, en fait. Donc c'est extrêmement dangereux. Il faut bien sûr végétaliser. L'enjeu, c'est pas, si on prend l'exemple de la gentrification verte, il faut pas dire qu'il ne faut pas végétaliser les villes, mais il faut pas seulement végétaliser uniquement les villes ou les beaux quartiers. Mais partout, en fait, dans tous les quartiers, il faut végétaliser. Il faut travailler sur la qualité de l'air. Vous savez que, par exemple, il y avait eu beaucoup de manifestations de la part de Banlieue Climat en Seine-Saint-Denis parce qu'ils avaient vraiment travaillé pour améliorer la qualité de l'air pour les athlètes. Mais les personnes de Seine-Saint-Denis n'ont-elles pas le droit d'avoir aussi accès à la qualité de l'air, de lutter contre la pollution de l'air? C'est essentiel parce que la pollution, ça tue. Et on n'y pense pas, mais ça tue réellement. Donc, lutter contre les effets du changement climatique, c'est aussi un enjeu de santé publique globale.
Et oui, et à Bordeaux, le verdissement est en route. La ville a planté 14 micro-forêts, 600 arbres fruitiers. Elle a débitumé des cours d'école, pour faire ce qu'on appelle des cours buissonnières, planté des arbres. Elle s'apprête à faire un projet de une grande rue arborée qui s'appellera Canopia. Bon. Alors que ce qu'on disait tout à l'heure, c'était important de multiplier des projets qui associent tous les habitants des quartiers populaires et pas seulement une petite partie de la population. Et la question se pose à Bordeaux, notamment avec quelque chose qui n'est pas un éco-quartier, là c'est Euratlantique. Et justement, il y a une chorale d'un collectif qui s'appelle Amédée Sacré-Cœur qui lutte contre la bétonisation à outrance de ce quartier Euratlantique qui n'a pas été décidé, il faut le dire, par la ville de Bordeaux mais par l'État. C'est un OIN. Il n'empêche que donc, ce collectif se bat pour une petite chose, un petit hectare au milieu d'Euratlantique ou qui serait entièrement vert. On écoute une chanson de ce collectif, Amédée Sacré-Cœur, on veut un parc.
Dans ce quartier, on peut avoir.
voilà, c'était la Big Chorale Amédée Sacré-Cœur qui était en manifestation en chantant cette chanson au travers du quartier Euratlantique. Alors il y a un autre phénomène, donc une autre menace, un autre risque pour les habitants et les habitantes de nos villes ou de partout de la France, c'est la montée des eaux, c'est l'élévation du niveau de la mer qui va créer des inégalités. Hein, sur 1000 bâtiments exposés à l'élévation du niveau de la mer d'ici 2028, il y en a un certain nombre, presque 200, qui sont des résidences principales. À l'horizon 2100, on estime qu'il y aura environ 450 000 logements qui seront concernés. Et donc les vulnérabilités continueront de s'aggraver. Les submersions peuvent affecter les zones urbaines, allant jusque profondément dans les terres. 10 000 infrastructures publiques pourraient être gravement affectées, ainsi que 275 hôpitaux et 243 maisons de retraite. Alors si vous ne croyez pas trop, vous avez un site internet du BRGM, vous tapez dans votre barre de recherche BRGM Montée des Eaux, et donc, il vous montre la carte de France et c'est le bureau de recherche minière. Et il vous montre, vous pouvez grossir sur Bordeaux, par exemple. Vous pouvez regarder ce qui va se passer quand le niveau des eaux aura monté de seulement un mètre. Eh bien, il y a une bonne partie, en tous les cas, de la ville de Bordeaux et de ses alentours qui seront sous l'eau, qui auront des risques de submersion marine.
Oui, en effet, c'est très intéressant ce dont vous parlez, parce que ça me fait penser au cas aussi de l'érosion de nos côtes ici en Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce que c'est que l'érosion côtière? Tout simplement, c'est causé par la fonte des glaciers et la hausse des températures marines. Ça entraîne une élévation du niveau de la mer et c'est l'une des conséquences des effets du changement climatique. Et l'archétype, en fait, de l'érosion côtière, c'est l'immeuble Signal à Soulac. Quelle est cette histoire? C'est un immeuble qui était construit dans les années, il y a 56 ans, dans les années 60, qui est au bord de l'Atlantique. Et progressivement, la mer est venue grignoter les côtes. Et cet immeuble s'est retrouvé plus qu'à quelques mètres de la mer. Et si je prends le cas des tempêtes de 2013 à 2014, elle a provoqué un recul de près de 30 mètres. Donc on voit que ces effets des changements climatiques, ce n'est pas que des effets qui vont être à long terme, mais c'est déjà aujourd'hui en réalité en fait. Les habitants ont dû quitter leur logement et une grande partie de nos côtes vont être soumises au cas d'érosion côtière. Donc ça veut dire qu'il faut relocaliser certaines villes, certains logements, mais en même temps, il ne faut pas trop artificialiser. Il y a la question du ZAN, du zéro artificialisation net. Donc ça pose une fois de plus, là, concrètement, un exemple d'adaptation au changement climatique. Il nous faut restaurer de manière, avec des mesures naturelles de rétention des eaux, en fait, renaturer des espaces aux dunes. Mais c'est un exemple concret dans notre région des effets du changement climatique. Comme dans les Landes, si on reste sur les côtes, c'est des méga-feux. On a subi des méga-feux en 2022. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'être allé à Arcachon ou là-bas, ou près de la dune du Pilate, simplement, à la teste de bûche, où il y a des immenses, où c'était extrêmement vert avant, et il y a des immenses volumes qui ont été détruits du fait des méga-feux. Et ce qui est dangereux, par exemple, avec le cas des méga-feux, au-delà de détruire la biodiversité, et certaines espèces sont aussi très vulnérables, c'est que lorsqu'ils brûlent, les arbres ne jouent plus leur rôle de puits de carbone, en fait. Donc voilà, c'est vraiment des exemples concrets qui montrent que dès aujourd'hui, dans nos territoires, on subit déjà les effets du changement climatique. Donc c'est réellement important de s'adapter. Donc, j'aimerais bien, si vous me permettez, si on a un peu de temps, citer ce que disait Pascal Berthaud, qui est directeur général du CEREMA. Il dit, je cite, « 1 euro dépensé aujourd'hui sur une infrastructure, c'est 4 à 6 euros qu'on ne dépensera pas ensuite. »
Et oui, parce que ne pas dépenser aujourd'hui, ce n'est pas faire des économies, c'est au contraire gaspiller l'argent public. Et c'est la deuxième partie du rapport d'Oxfam qui développe beaucoup cette question. Les politiques d'adaptation aujourd'hui ne sont pas à la hauteur. En ce moment, on considère que entre 1980 et 2022, la France a dépensé 120 milliards d'euros pour donc les dégâts causés par des phénomènes météorologiques extrêmes. Et dans toute l'Union européenne, c'est 650 milliards d'euros. Donc on voit que la France, c'est un gros morceau, c'est même le deuxième plus gros morceau, hein, de ces dégâts causés par les événements climatiques extrêmes. Donc, effectivement, il y a besoin d'anticiper et d'avoir des politiques d'adaptation qui soient à la hauteur. Et je reviens sur cette lettre du Haut Conseil pour le climat que je citais tout à l'heure, d'avril dernier. Elle dit « Les efforts d'adaptation restent en décalage par rapport aux vulnérabilités et aux besoins, comme le montre l'aggravation des impacts au cours des dernières années. Un changement d'échelle dans l'adaptation, combiné aux efforts de décarbonation, est essentiel pour mieux anticiper les conséquences du réchauffement et limiter les impacts pour les ménages et pour les entreprises. » Et on a vu par exemple la situation des inondations dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors c'est vrai qu'il a beaucoup plu et que le terrain est très plat dans cette région, hein, mais il y avait un vrai problème de maladaptation aussi derrière, puisque beaucoup d'agriculteurs ont défendu l'idée que c'est parce que les canaux étaient mal curés que l'eau s'évacuait pas bien. Et il y a eu une enquête, une expertise et des gens qui ont réfléchi à la question en disant mais c'est surtout parce que les terrains en amont n'étaient pas aptes à absorber de l'eau, parce que c'était des terres agricoles qui étaient un peu imperméabilisées à cause des pratiques agricoles intensives, parce qu'il n'y avait pas de haies, pas suffisamment de haies, bref, il n'y avait pas suffisamment d'absorption d'eau non plus. Et donc, on le voit là, réfléchir. Donc, il y a tout un conflit, vous pouvez regarder ça en ligne, entre les paysans qui disaient il fallait curer les canaux pour que l'eau s'évacue vite, vite, vite. Mais en fait, l'eau ne peut pas s'évacuer vite quand la mer est au ras du sol. L'eau ne s'évacue que si on est un peu en altitude. Et là, il fallait au contraire anticiper. Mais là, ça ne se fait pas en un jour pour que les terres agricoles absorbent l'eau.
Oui, c'est assez symptomatique d'un symbole de conflit politique qui est lié aux effets du changement climatique. Certains agriculteurs s'entêtent à défendre un modèle d'agriculture intensive parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont pris au piège en fait par la PAC qui aujourd'hui subventionne davantage les grandes surfaces et ne soutient pas assez la diversification des cultures et l'importance de passer à l'agroécologie. C'est pourquoi c'est essentiel pour nous d'avoir des mesures réelles de transition pour accompagner ces changements, pour pouvoir aider financièrement les agriculteurs lorsqu'ils prennent du temps pour construire des haies, pour qu'il y ait un vrai, ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux, en fait. Donc, il y a vraiment une nécessité aujourd'hui de repenser l'ensemble de notre mode de production, pas seulement là pour l'agriculture, mais aussi de l'industrie plus largement. C'est vrai que quand on parle des enjeux climatiques, parfois on a peur, les sentiments qui ressortent le plus, c'est la crainte, c'est d'être un peu sidéré. Mais moi, je dis aussi qu'il y a beaucoup d'espoir, puisque les solutions, en réalité, on les a. L'enjeu aujourd'hui, il est vraiment dans la conflictualité politique entre un modèle qui rapporte, en fait, qui rapporte encore beaucoup à une partie de la population, et pendant que d'autres subissent déjà les inégalités, les injustices, et ça ne fait que s'aggraver. Donc, l'importance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a encore le temps, on est très en retard, mais on a encore le temps de se battre pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à la dignité. Et c'est ce qu'on essaie de faire, Oxfam, via nos actions de sensibilisation, en produisant ces rapports pour expliquer qu'il y a des solutions. En réalité, vraiment, j'insiste là-dessus, il y a des solutions pour répondre face à ces enjeux, mais il faut pouvoir les mettre en œuvre. Et c'est pour ça que nous faisons un peu de pression sur l'État, qu'on était aussi dans le cadre de l'affaire du siècle, à faire condamner l'État pour
inaction climatique. Et donc, il y a toute une partie du rapport qui se concentre sur mais à quelle échelle est-ce qu'il faut programmer l'adaptation, comment la construire. Alors, effectivement, l'État a une grosse responsabilité parce que même s'il y a différentes échelles, c'est quand même lui qui doit impulser des politiques d'adaptation au niveau territorial, sensibiliser les acteurs et surtout donner les moyens financiers. Là, on voit que les collectivités territoriales sont complètement désappuyées par les mesures d'austérité du budget. Et il y a donc tout un tableau sur ce qui peut se régler au niveau communal ou communauté de communes, ce qui peut se régler au niveau des départements, ce qui peut se régler au niveau des régions. Et il y a effectivement, tout ne se fait pas partout.
Oui, en effet. Alors, il y a vraiment une responsabilité historique de l'État, parce qu'il a des compétences fondamentales, hein, c'est d'avoir ce plan national d'adaptation au changement climatique, le PNAC. Nous, on défend qu'il soit le plus contraignant possible. Au niveau international, j'ai cité tout à l'heure, c'est de fournir les fonds aux pays du Sud, les 100 milliards que les États ont promis. Au niveau de la région, c'est aussi s'engager à la région Nouvelle-Aquitaine. On a ici le rapport, il y a le rapport Aclimatera sur le climat et le rapport Ecobio sur la biodiversité. C'est des scientifiques locaux qui réfléchissent aux effets des changements climatiques et de l'effondrement de la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine. Donc, ils proposent des solutions. La région, c'est une chef de file pour la transition énergétique. Donc, il y a vraiment un enjeu de produire de l'électricité qui soit la plus neutre en carbone possible. Il y a la question vous avez cité tout à l'heure, les cours buissonnières en renaturant les cours.
Ça, c'est pour les communes.
C'est pour les communes, pour les écoles, pour les collèges, c'est le département. Et le lycée pour la région. Il y a la question aussi, moi je pense on n'évoque pas forcément assez, mais aussi des agences comme l'agence de l'eau sur la question de l'eau dont on a parlé tout à l'heure, c'est de soutenir des études HMUC, donc c'est des études hydrologiques, milieu, usage et climat qui sont essentielles pour renforcer le dialogue. Nous, ce qu'on essaie de défendre à Oxfam, au-delà de renforcer le rôle des collectivités territoriales, parce qu'elles sont là au quotidien auprès de la population, c'est vraiment renforcer la transparence, le dialogue, la concertation avec les habitants. Et sur la question de l'eau, pour éviter ce qui a été le drame de Sainte-Soline et la violence, et toutes les questions qui sont liées aux bassines, c'est vraiment de renforcer les clés, les commissions locales de l'eau, toutes les concertations pour éviter l'accaparement des communs naturels.
Oui, oui, ces études HMIC sont un vrai enjeu de bataille, puisque dans le Poitou, on le voit, aujourd'hui, dans la Vienne, la FNSEA conteste les études HMUC, alors que ce sont des études menées par des scientifiques. On évoquait tout à l'heure ce débat qu'il faut à tout prix imposer. Ben non, ce n'est pas une question d'opinion. Quand les scientifiques établissent une étude aussi précise que celle qu'ils ont faite, eh bien, il faut la prendre en compte tous, parce que c'est notre avenir à tous qui est en jeu. Et donc, on a évoqué un petit peu la question des moyens, de combien ça coûte, ça. Donc, il y a une troisième partie de ce rapport qui parle donc justement des études faites par I4CE, je ne sais pas, c'est l'Institut économique pour le climat.
C'est ça, oui. Oui.
Qui a chiffré pour le secteur bâtiment, il faudrait 7 milliards d'euros par an, en plus des besoins pour l'atténuation. Pour le secteur transport, ce serait plusieurs centaines de millions, voire des milliards d'euros qui seraient nécessaires. Pour le secteur agricole, 1,5 milliard d'euros. Pour parvenir à un système totalement résilient. Et d'autres chiffrages ont été faits, par exemple RTE qui estime que les besoins d'investissement sont environ de 100 milliards d'euros pour adapter le réseau électrique à un réchauffement à plus 4 degrés, celui qu'on nous promet pour 2100. Dans la forêt, il faudrait 10 milliards d'euros nécessaires. Dans le secteur de l'eau, 2 milliards pour la rénovation et l'entretien du réseau d'eau potable et la dépollution des eaux souterraines, qui coûterait à minima, j'étais effaré par ce chiffre, donc c'est sur des années, mais 522 milliards d'euros. Voilà, donc quel sera, après tout ça, le budget consacré à l'adaptation dans le prochain projet de loi de finances, celui qu'on nous cache, que Bercy ne veut pas communiquer à la commission de finances de l'Assemblée nationale, à Charles-Louis de Courson et à Éric Coquerel. Qu'est-ce qu'il va... On pense que, bien sûr, ça va être un budget à la baisse. On nous a déjà annoncé un rabot sur les subventions de l'ADEME. Voilà, l'ADEME, l'Agence de maîtrise de l'énergie. Donc, c'est là qu'il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes.
Oui, en effet, c'est un temps essentiel pour nous. Très souvent, nous avons du plaidoyer pendant le projet de loi de finances. Donc, pour expliquer un peu aux auditrices et aux éditeurs, le PLF, pour les intimes, c'est le moment où l'État réfléchit à son budget. C'est-à-dire regarder ses dépenses et ses recettes. Et c'est une loi extrêmement importante parce que ça permet de voir concrètement quelles sont ses priorités budgétaires. Et nous, on défend vraiment qu'il est nécessaire de mettre beaucoup plus d'argent pour la transition écologique et surtout par le principe du pollueur-payeur. Tous ces chiffres en milliards que vous énoncez, aujourd'hui, on voit bien que les personnes qui financent le plus la transition écologique et qui qui financent le plus en fait les services publics, ce sont les personnes les plus pauvres et les plus précaires. Souvenez-vous en fait du cas des gilets jaunes avec la taxe carbone. Elle n'était même pas affectée à l'écologie et c'était les personnes qui n'avaient pas le choix tout simplement de prendre leur voiture qui devaient payer des politiques d'adaptation alors que on sait aujourd'hui à chaque fois c'est une bataille qu'on a nous à Oxfam et beaucoup d'autres ONG que la fiscalité par exemple de l'aérien n'est pas du tout la même que la fiscalité du train. Donc tout ça, ça fait partie des exemples qu'on propose, c'est qu'il faut clarifier au niveau de la fiscalité, supprimer les niches fiscales qui sont toxiques et polluantes et davantage avoir de mesures qui soient des mesures qui permettent à la population de s'adapter correctement, d'avoir des droits sociaux, d'améliorer les conditions de travail, mais aussi la protection sociale qui va être menacée par les effets du changement climatique, alors même qu'on voit qu'il y a de plus en plus de coupes budgétaires, alors que l'un des effets du changement climatique, c'est aussi beaucoup de maladies. En fait, il y a beaucoup de plus en plus de maladies respiratoires ou autres, ou tout simplement pour les agricultrices et les agriculteurs, et beaucoup de cancers qui sont liés
aux pesticides,
qu'on appelle les CMR.
Voilà. Et le rapport du RAC qui est paru ce matin, lui, signale que, au contraire de ça, de tous ces milliards qui seraient nécessaires pour bien adapter nous adapter à ce changement climatique qui arrive, eh bien, il faudrait beaucoup d'argent, mais bien au contraire, 67 milliards d'euros par an subventionnent les activités contribuant au dérèglement climatique. On cite un exemple, Total, qui est notre champion de la pollution nationale, hein, qui ne pollue pas que chez nous, mais il pollue sur la planète entière, a fait 19 milliards de bénéfices en 2022, mais n'a pas payé un centime d'impôt. Et pendant ce temps-là, donc, on nous fait une campagne aujourd'hui pour nous dire non, ce serait l'horreur d'augmenter les impôts. Il n'y a pas quelque chose qui dysfonctionne terriblement là, puisque... C'est bien sûr en augmentant les impôts, notamment sur les profits pareils, qu'on va pouvoir trouver les moyens de s'adapter au changement climatique.
Oui, il y a une campagne en fait un peu de dénigrement sur la question de l'impôt. En fait, la vraie question, c'est augmenter les impôts de qui ? Augmenter les impôts des personnes les plus précaires, des classes moyennes, non, c'est pas possible puisque tout le monde, on voit bien... C'est triste encore hier soir, les kilomètres et les kilomètres de queue des étudiants pour manger. Il y a une très forte paupérisation de la population, c'est plus acceptable. Une déperdition des services publics, c'est effarant. Non, il faut augmenter ces nécessités, c'est ce qu'on défend nous à Oxfam. On a ce qu'on appelle un manifeste fiscal qui est juste, vert et féministe, qui propose un certain nombre de mesures concrètes aujourd'hui, des mesures fiscales pour financer la transition écologique et sociale et qui soient le plus féministe, parce qu'il faut aussi répondre aux enjeux qu'on dit, les questions dites sociétales, comme on voit dans l'actualité, il faut répondre aux enjeux de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants et toutes les personnes. Donc il y a tous les services publics, donc on a vraiment besoin aujourd'hui de taxer les bonnes personnes, de taxer les bonnes activités. Vous parliez Total, moi j'ai envie de parler aussi de BNP, je ne sais pas si vous savez, mais on en procède aussi avec BNP dans le cadre de l'affaire BNP aux côtés de Notre Affaire à Tous et des Amis de la Terre. Pourquoi ? Parce que les banques financent en réalité des activités qui sont toujours nocives pour le climat. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation contraignante en fait, pour les banques de respecter l'accord de Paris. Donc si Total peut faire son pipeline ICOP en Ouganda et en Tanzanie, c'est parce qu'il est financé par des banques qui l'assurent et qui lui permettent de réaliser ses projets. Donc c'est une raison pour laquelle nous, on avait choisi de porter plainte contre BNP. Aujourd'hui, les obligations, elles portent beaucoup sur les États et les individus. Il ne faut pas oublier que les multinationales ont une responsabilité majeure, en fait, dans les effets des changements climatiques, dans les inégalités, que ce soit ici, dans les pays du Nord, mais aussi particulièrement dans les pays du Sud.
Tout à fait. Alors, en conclusion de ce rapport d'Oxfam, il y a 6 recommandations qui ont été proposées pour donc une adaptation équitable, juste et efficace. Est-ce que tu peux les présenter ?
Je ne vais pas toutes les présenter, mais j'en citais quelques-unes. J'ai cité déjà tout à l'heure tout ce qui concerne les mesures internationales qu'il faut que les États versent les 100 milliards de dollars qu'ils ont promis aux pays du Sud. La question du droit du travail elle est assez importante, puisqu'il faut adapter le droit du travail aux effets du changement climatique. Il faut aussi financer des recherches sur les risques spécifiques qui sont liés au changement climatique. Il y a la question aussi du système de protection sociale, comme je le disais, peut-être repenser le chômage temporaire, les subventions aussi directes aux travailleuses et aux travailleurs, comment se former à des nouveaux métiers, ça c'est des choses aussi importantes, avoir des investissements qui soient proportionnels à l'urgence. Aujourd'hui, il faut mettre les moyens humains, financiers et organisationnels qui soient dédiés à l'adaptation au changement climatique. On a ce qu'on appelle le secrétariat général à la planification écologique et nous, on défend un secrétariat général qui soit spécifique à l'adaptation aux effets du changement climatique. Et enfin, je voudrais vraiment insister sur l'aspect démocratique qui est essentiel pour nous, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y avait beaucoup de menaces. En fait, aujourd'hui, il y a une diabolisation des militants écologistes avec la loi séparatisme particulièrement, où dès que des militants manifestent et cherchent à défendre la dignité humaine, les valeurs de notre République, ils sont tout de suite criminalisés. On utilise même des termes d'éco-terrorisme. C'est extrêmement grave. Donc pour nous, c'est essentiel de renforcer au contraire la démocratie, la concertation. Je renvoie au rapport très bien de Michel Forst, qui est un rapporteur de l'ONU, qui a publié une étude qui explique tout à fait cette criminalisation des militants environnementaux auxquels je pense particulièrement aujourd'hui en France, mais aussi à l'international, comme vous l'avez cité pour tout à l'heure, mais pour le Mexique.
Et oui, Michel Forst qui est venu, qui a pris la peine de venir sur le chantier de l'A69 et constater des visus, les violences et les dénis des droits humains qui étaient faits sur ce chantier, dans la répression contre les écureuils, ce qu'on appelle les écureuils, qui se mettent dans des arbres pour empêcher leur abattage. Et ça a continué tout cet été. Il y a eu encore des violences. Et j'espère que vous avez aussi entendu le podcast de cette femme qui était donc habitante de la dernière maison à exproprier sur le tracé de l'autoroute et qui raconte comment des voyous ont été envoyés, des nervis, à Tosca, forcément, par le chantier et l'entrepreneur, pour incendier sa maison, incendier sa voiture, la menacer physiquement, puisque elle traînait des pieds pour ne pas être expropriée et surtout elle demandait un relogement équivalent. Et voilà. Donc, nous ne sommes pas dans l'état de droit qu'on nous vante régulièrement, nous le savons, et effectivement, il faut continuer de lutter et de se rassembler pour pouvoir gagner nos batailles et faire entendre, avant qu'il ne soit trop tard, cette nécessité d'anticiper. C'est très fort, merci d'avoir éclairci tout cela, Emilia. Pour justement dire comment éclaircir, je voulais signaler deux revues qui viennent de paraître. Alors, il y en a une qui parle de l'eau, qui émane d'un collectif de Girondins qui s'appelle Soif, Révéler l'invisible. C'est une très belle revue avec des belles photos et des articles de fond sur l'eau sous terre, l'eau sur terre, les mesures pour la protéger, etc. Donc, une belle revue. Et une revue écolo, alors c'est son numéro 1, la Soif. Donc vous pouvez aller sur le site soif-la-revue.fr et vous pourrez avoir une belle présentation de cette revue. Une autre revue qui sort son numéro 1, c'est la revue Fracas, le média des combats écologiques. Et c'est ce numéro 1 a pour titre La révolution écologique qui vient. On espère que le titre sera prémonitoire, parce qu'il y en a bien besoin. Et c'est une revue vraiment très dense, avec une réflexion sur à la fois les moyens de lutte, les modes de lutte, désobéissance civile, non-violence, action plus directe, et qui revivifie cette réflexion, croise les idées sans a priori, mais avec vraiment beaucoup d'exigences théoriques. Et c'est, je vous conseille d'aller sur le site de Fracas, cette nouvelle revue, pour voir sa présentation. Nous vous avions annoncé une réunion de présentation de l'opération Freinage d'urgence qui aura lieu donc les 11, 12 et 13 octobre prochains et dont on reparlera très en détail dans notre émission du 3 octobre. Étienne, donc un ami de Climat de lutte, a pu s'y rendre et nous a rapporté le son suivant.
Ok, alors nous, on est des militants et militantes. Et donc, dans le cadre de cette prochaine manifestation Freinage d'urgence qui a lieu le 12 et 13 octobre, qui est contre la LGV du Sud-Ouest, un projet pharaonique, on organise quoi ? Dis-nous.
Déjà, on a organisé un convoi vélo pour aller à Mel de Bordeaux à Aubert-et-Poitevin cet été. Et on s'est dit qu'on allait refaire la même chose.
Rebelote.
Donc on organise un convoi à vélo pour se rendre de Bordeaux jusqu'à une destination qui, actuellement, est encore secrète.
Et si vous avez envie de nous aider à organiser tout ça, on se retrouve pour une réunion d'information le jeudi 3 octobre à la Halle des Douves à 19h. Soyez nombreux, nombreuses, on vous attend.
Allez, et on va pédaler ensemble contre les TGV et pour les trains du quotidien.
Hi-ha !
Bon, alors, vous l'avez entendu, cette réunion, elle aura lieu en même temps que Climat de lutte, mais Climat de lutte, ce podcast, parce qu'il est toujours systématiquement téléchargeable, écoutable, sur le site de laclédesondes.fr, rubrique émission/climat de lutte. Merci à Emilia d'être venue nous informer avec tant de précision sur ce rapport d'Oxfam et sur le rapport du RAC, sur notre donc inadaptation au changement climatique, mais au positif, ce qu'il faudrait mettre d'urgence en œuvre pour être prêt à ce changement climatique. Merci à Nathanaël d'avoir assuré la technique de cette émission et à la semaine prochaine.